Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère, c'est le balado du Jardin des Funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. Bonjour à vous et bienvenue à ce troisième et dernier segment de la part de Ghislain Jutras. Donc, si vous n'avez pas entendu les segments précédents, juste pour vous mettre ça en contexte un petit peu, Ghislain est un personnage incontournable que j'ai eu l'occasion de présenter dans l'épisode de juillet 2020. Donc, c'est l'épisode numéro 4, si jamais vous voulez vous y référer. Et Ghislain nous envoie des segments, en fait, nous a envoyé trois segments jusqu'à maintenant, des segments qui sont avec des pionniers dans le bio au Québec. Donc, on a eu la chance de pouvoir publier ça. Donc, c'est vraiment apprécié. Puis, étant donné que c'est le dernier segment que Ghislain nous envoie pour l'instant, ben je tiens à le remercier. Gigi, merci pour ta contribution à ce balado, puis merci pour ton amitié et pour ta contribution de façon générale, ta si généreuse contribution au milieu du bio. Pour vous présenter de façon plus précise de qui il s'agit aujourd'hui, il s'agit de Richard Favreau et Monique Michaud de la ferme Val-au-Vent. Et dans le cadre de cette introduction, je suis un petit peu plus porte-parole de Ghislain que d'autres choses, étant donné que Ghislain les connaît quand même mieux que moi. Donc, il y a eu l'occasion d'avoir quelques rencontres avec Richard et Monique. Donc, ce qu'il a à dire, en fait, sur eux, c'est que c'est des gens vraiment investis pour le développement du bio dans le Bas-Saint-Laurent, puis que leur premier réflexe, quand ils ont reçu des reconnaissances d'une manière ou d'une autre pour leur travail, ça a été de penser aux retombées positives pour leur région d'une part, mais aussi pour l'agriculture bio au Québec de façon générale. D'une autre part, Richard est un contributeur légendaire et prolifique aux échanges du RJME, ça c'est le Réseau des joyeux maraîchers écologiques. Dans le fond, c'est une espèce de suite de messages et d'échanges entre maraîchers, si vous n'y êtes pas déjà introduit. En fait, on retrouve une certaine forme de sagesse dans la façon dont Richard contextualise toujours comme super bien ses interventions, peu importe le sujet, puis c'est vraiment un des acteurs quand même majeurs là, du RJME. On peut dire, pour finaliser l'introduction, que la transmission pour eux, c'est un modus operandi à plein niveau, tant au niveau des connaissances agricoles qu'au niveau de la passion pour cultiver et pour cuisiner. Puis que c'est un couple super attachant qui mérite beaucoup de respect pour le succès qu'ils ont eu dans des conditions qui sont extrêmes, des conditions pédoclimatiques dans lesquelles ils ont cultivé qui sont quand même extrêmes. Pour ma part, en l'écoutant, j'avais l'impression d'être dans une espèce d'immersion culturelle d'une autre région du Québec. C'est comme si le fait d'être dans le Bas-Saint-Laurent, ça les amenait à avoir une relation différente, notamment dans leur mise en marché. On voit qu'ils ont une relation vraiment approfondie avec les abonnés et avec les restaurateurs avec qui ils font affaire. C'est empli de soins et d'attention particulière. Donc, je crois que je vais vous laisser écouter ça sans plus attendre. Donc, je vous souhaite vraiment un bel écoute. On se dit à très bientôt!
Bonjour Monique et Richard, ça va bien?
Pas payé?
Oui.
J'espère.
Pas trop stressé.
Ah, c'est énervant d'avoir un auditoire si nombreux.
Donc, merci de vous prêter au jeu de l'Odyssée bio qui permet de capter un petit peu de votre mémoire à vous puis rajouter ce morceau de casse-tête-là dans le grand casse-tête. Votre morceau, il est bien intéressant. Je vous connais déjà un petit peu, mais j'ai le goût de vous faire découvrir à d'autres personnes aussi, puis moi-même de vous connaître davantage. Donc, on pourrait commencer par le début.
Ici, on est à Saint-Valérien-de-Rimouski. Ça se trouve être le quatrième rang de la seigneurie du Bic. Donc, on se trouve être à 4000 du rivage, 7 kilomètres. Mais par exemple, on est à 180 mètres de hauteur. C'est sur les marches, les contreforts appalachiens. Le terrain ici, on se trouve être, c'est assez particulier, c'est que à notre hauteur, il n'y a jamais eu d'invasion marine suite au départ des glaciers. Donc, on n'a pas d'épais dépôts d'argile, de sable, etc., qui sont normalement recherchés par les producteurs, surtout les maraîchers. Ici, le sol il est élaboré à partir d'un dépôt qui se fait en dessous des glaciers. Ça s'appelle le till ou moraine de fond. Puis ça, c'est vraiment un millimélo de farine de roche de graines de roche et de blocs de roche. Vraiment, toutes les granulométries sont représentées et c'est pas nécessairement épais, par exemple. Quand on est chanceux sur le terrain, on va avoir 60 cm de matériaux meubles. Après ça, c'est le roc en place. La topographie est pas exactement uniforme, drainage non plus. C'est un endroit qui avait été délaissé par les cultivateurs avant ça parce que c'était trop dur pour faire du foin.
Ça en dit long.
Exactement. Le terrain en tant que tel, qui fait 4 hectares. Avec beaucoup d'ambition et d'imagination, on a cultivé jusqu'à 1,2 hectare. Ce type de terrain-là, même si c'est absolument pas approprié, par exemple, au passage de maçonnerie, à cause de la pierrosité puis de l'irrégularité de l'épaisseur des sols, c'est un terrain qui est éternellement fertile. La petite farine de roche qui a été fabriquée par les glaciers, elle a de grands pouvoirs. On a même une dicton ici, entre les roches, il y a de la bonne terre. Il y avait un professeur, M. Gilneau, de l'Apocatière, disait, vous faites du maraîchage dans des conditions extrêmes. Puis je répondais, ouais, mais ça, c'est la place qui n'a pas de roche.
On n'a pas dit où on est encore. On est à la ferme Val-au-Vent.
Ouais, ça vient de Val pour Valérien. Au vent, c'est à cause du projet de déshydratation. On voulait signifier l'air. Puis en même temps, il y avait une question, même si on, Monique, moi, on est des malentendants, on a voulu avoir une consonance appétissante. Parce qu'on connaît les vols au vent, la pâtisserie, puis ici, c'est Val au vent à la place de vol au vent. C'est pas mal ça.
Ah oui?
C'est ta tâche. Ah ben oui, ça fait partie.
Monique, elle apprend encore.
Processus. J'avais trouvé le nom juste avant.
Vous êtes arrivé de où? Le point A, avant d'arriver ici, puis de vous impliquer en maraîchage... biologique, il y avait sûrement une vie avant ça.
Mon côté, moi je suis un géographe, j'ai fait des études en développement régional aussi. Je suis natif de Longueuil, mais j'ai fait le gros de mes études à Rimouski. Généralement, à la fin de mes études, j'ai travaillé surtout comme agent de développement. J'étais ce qu'on appelle un monteur de projet. Puis, normalement, avec des organismes environnementaux liés à la nature. J'ai fait beaucoup d'emplois différents, mais toujours comme agent de développement. Et puis, moi, j'ai tant eu un peu comme une calculatrice qui marche dans la tête. Hectares, pieds carrés, dollars. J'avais aussi... une passion de jardinage. À chaque place que j'ai resté, j'ai toujours fait un jardin. Puis quand j'avais pas de place à jardiner, j'allais faire le jardin chez quelqu'un d'autre ou j'allais démarrer le jardin chez quelqu'un d'autre. C'était un peu comme une habitude. Sans nécessairement être bien bon là-dedans, j'avais pas beaucoup de connaissances théoriques. Et puis, je restais au village du Bic, qui est à côté de Rimouski. Et puis là, je me suis dit, il est temps que je m'achète une maison. Puis un terrain pour essayer de faire des projets de culture. J'avais une idée pas mal de faire un projet de déshydratation de poireaux. Pourquoi le poireau? Parce qu'il n'y avait pas d'insectes connus. C'était résistant au froid. Alors, c'est là qu'il y a eu l'achat de l'entreprise ici. Pas de l'entreprise, mais de la maison, puis du terrain. Monique, on s'est joint ensemble pas mal à cette période-là. Puis elle a un background pas mal différent.
Alors, moi, je suis originaire du Saguenay, mais pendant toute mon enfance, on venait à Sainte-Flavie. Je suis une grand-tante de mon père, donc j'aime beaucoup le paysage, la mer, tout ça. Mais dans ma jeune période, on peut dire début vingtaine, j'ai surtout travaillé dans des petites galeries d'art parallèles et puis fait du théâtre. Quand je suis revenue dans la région ici, j'ai travaillé en restauration un peu. J'ai travaillé au musée régional de Rimouski. Ensuite, j'ai continué à travailler un petit peu dans le milieu des arts là, pour une petite troupe de théâtre. À l'âge qu'on a, des fois, on a plusieurs vies. Et puis, chez nous, on n'avait pas de jardin, mais le voisin dans l'arrière avait un jardin. Puis, il venait toujours porter des légumes ou des fleurs, donc je trouvais ça intéressant. Mais j'avais pas le pouce, j'avais personne pour me le montrer. Donc, quand j'ai vu Richard jardiner à la Maison des Jeunes, dans un de ses jardins là où il s'implantait, moi aussi, j'avais un jardin où j'habitais, avec des tournesols de 15 pieds de haut parce qu'il y avait trop de fumier de poule. Tu sais, ça, c'était les premiers, là, on s'amusait. Puis tranquillement, quand j'ai vu qu'il y avait le projet, je vais lui donner un coup de main. Puis tranquillement, on s'est liés comme ça. Ce que Richard t'a pas dit tantôt, c'est que sa grand-mère, il donnait des 10 sous pour qu'un jour, il s'achète sa ferme. Puis chaque fois qu'il voyait sa grand-mère, il avait son 10 sous. Peut-être de là le calcul et la ferme. Peut-être ça vient de là, on ne sait pas.
C'est ça. La résidence a été, et le terrain ont été achetés en 1995. Le projet a fini par être accepté au milieu de l'été 96. La production de poireaux en tant que telle a commencé en 1997. 98, on a poursuivi. 99, on est tombé vraiment dans une autre voie. Et puis nous autres, quand on a commencé, notre défi, c'était d'arriver à en vivre avec une surface qui était vraiment très petite. Dès le début, là, c'était un objectif vraiment viable. Petite surface, basée sur le travail humain, ainsi de suite.
Quand Richard a acheté la maison ici, sur la maison, on n'a pas fait grand-chose là au début. Mais à côté, il y avait un bâtiment qui était complètement démoli. Un dos de cheval, là, le toit effondré. Ils l'ont redressé, ils ont reconstruit le toit, ils ont resserré la cage thoracique du bâtiment. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas. Ça, c'est devenu le séchoir, la salle de lavage. Chaque année, quand on avait besoin d'un espace supplémentaire, on rajoutait ou on faisait des tablettes. Maintenant, c'est là qu'est le tracteur, c'est là que sont l'entrepôt pour les oignons, c'est là qu'est la chambre froide, les bains de lavage, la salle de mûrissement de tomates. Le rangement des outils, mais au début, t'as même pas mis une tondeuse là-dedans. Là, l'eau, ça coulait partout. Là, c'était vraiment très, très démoli. Donc ça a été un travail en parallèle du jardinage.
L'enchaîner sur la question du poireau, c'était assez difficile à monter comme projet, surtout un projet maraîcher, parce que dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas beaucoup de traditions maraîchères. Un peu de tradition maraîchère autour de Mont-Joli, à part ça, c'est un pays de vaches, d'éleveurs. On était à la limite de la forêt. Et par exemple, il y avait un seul projet maraîcher avec la transformation qui avait fait un peu comme sa marque. C'était les herbes salées du bas du fleuve. Et ce qui a fait que ça intéressait un peu le MAPAC de voir quelqu'un qui voulait faire une production associée d'une transformation. Le problème, il fallait apprendre à faire pousser le poireau, qui est une plante peu compétitive et puis qu'on a planté sur un retour de friche. C'est-à-dire dans de la couenne renversée, c'est pas très, très fort comme rendement. Ça avait été complètement fou cette année-là. On avait commencé à transplanter le poireau au début du mois de mai. On avait fini à Saint-Jean-Baptiste, 7 jours sur 7, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. On n'a jamais fait le tour au cerclage, complètement. C'est vraiment débile. On n'a jamais refait autant. De fil en aiguille, on est arrivé à produire quelque chose d'assez bon, mais peut-être de trop bon. Les gens achetaient un sac, ça leur durait 6 mois. Alors, on a fini, là, dans le grenier, on avait des ballots et des ballots et des ballots de poireaux déshydratés. On en a encore, qui est encore très bon. C'est QV 1997. C'est une bonne année. Je sais pas s'il peut avoir une valeur, là, comme les bouteilles de vin. Et puis, c'est ça, c'est que Monique disait, coudonc, il me semble que les restaurants pourraient aimer prendre d'autres choses. Puis elle se dit, mais ils aiment les fines herbes, ils aiment toutes sortes de choses. En parallèle avec notre production de poireaux, on commençait à faire quelques légumes pour nous autres et puis pour des clients occasionnels qui venaient à la ferme. Et puis, au bout de 2 ans, on s'est dit, bon, mais c'est bien une valeur, on prend direction du frais. On est en train de sécher là avec les légumes déshydratés. Pas malin. Comment dire, il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée à sécher un légume. La valeur était dans le frais, dans le très frais, dans le légume qui est un peu comme sur mesure pour les restaurants. Et puis là, ça a déboulé. La demande a toujours excédé notre offre. Donc, on a toujours été avec zéro invendu dans les légumes frais. Ça incluait beaucoup de fines herbes fraîches, beaucoup de fleurs comestibles aussi. On a fait aussi des fleurs séchées, mais ça a duré juste un petit temps. On tirait à gauche et à droite pour voir qu'est-ce qui marcherait, si on peut dire. Ça a duré pendant quelques premières années jusqu'en 1999. Puis après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un bon ami à moi, un ancien voisin qui était rendu très bon maraîcher à Saint-Narcisse-de-Rimouski, à l'intérieur des terres. Il s'appelle Denis Canuel. Puis, il était vraiment très bon. C'est lui qui a introduit les paniers dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et puis, qui était certifié biologique à ce moment-là. Puis, on avait un peu comme une idée que nous autres, on allait vendre au restaurant et ou faire de la transformation. Puis, eux autres allaient faire les paniers, puis vendre à l'épicerie sous l'appellation biologique. Pour diverses raisons, il a abandonné ses affaires en 1999. À ce moment-là, on a sauté sur l'occasion pour demander la certification biologique. En fait, c'est d'autant plus pertinent que cette année-là, que la certification devenait officielle par la loi au Québec, la loi sur les appellations réservées. Alors, on est en première gang d'avoir été pré-certifié avec, selon cette nouvelle loi-là. Puis là, on a commencé à faire des paniers. Il y avait sa clientèle qu'on a pu récupérer en partie. Puis cette clientèle-là, on a commencé tout petit. Je pense qu'on avait 13 familles. Puis il a fallu acheter des carottes à notre ancêtre René-Paul Rousseau, la ferme écologique de Baie-des-Sables, qui était biologique depuis très longtemps, pour être capable de compléter la saison. Puis, on a passé de 13, après ça, 25, à peu près ça, 35, 50 paniers. 87, ça a été notre maximum, en même temps qu'on vendait à 3 épiceries et qu'on livrait à 6 ou 7 restaurants. Tout ça d'un hectare de culture.
Avec le bateau.
Incluant un navire de croisière. On n'a jamais fait beaucoup de ventes à la ferme. Ça a été un peu comme un secret bien gardé. On s'est fait déranger beaucoup parce que les gens étaient curieux de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pousser ici. La tradition dans la région ici, c'est de faire le jardin à Saint-Jean-Baptiste, genre, puis de casser le jardin à la fête de l'Action du travail. Sauf au moment où le monde faisait leur jardin, on récoltait nos premières laitues. On a teinté un peu comme un rocker, un peu intrépide pour essayer de faire pousser les légumes vraiment aux limites de la possibilité climatique. Puis ça a donné des belles surprises, c'est bien.
C'était le début là, de l'irrigation goutte à goutte, c'était le début des bâches, le début des tunnels. Nous, on a été dans ces...
C'est venu plus tard, par exemple.
Plus tard, mais tu sais, on a été dans les premiers, là, qui ont la première cohorte qui utilisait ça. Là. En région, ici, les gens n'avaient jamais vu ça, le début. Je me rappelle un jour, il est venu de monsieur du MAPAC qui disait « Ouais, mais la transformation, ça vous intéresse pas, tu sais. » Je disais « Ben non, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens à qui on vend nos légumes apprennent à les cuisiner. Moi, les petites patates emballées qu'on voit partout maintenant, là, c'était un projet à l'époque sur les petites mamzelles, là, tu sais, les petites patates déjà pré-mâchées quasiment. Moi, je voyais pas d'avenir ou d'ouverture dans ça. On disait « Nous, notre job, c'est de cuisiner puis donner la passion de manger, cuisiner aux familles avec ceux qu'on a. » On peut pas tout faire. On t'a passé du poireau aux légumes frais, à un moment donné, il faut. Puis à l'âge aussi. Nous, on a commencé, on avait la quarantaine avancée. Donc, ceux qui demeurent maintenant, ils finissent les études ou ils vont aller travailler sur quelques fermes, puis après, ils se mettent en collectif ou ils démarrent eux-mêmes leur entreprise. Ils sont souvent moins de la trentaine.
Donc, vous aviez quel âge exactement?
En 96, moi, j'avais 44 ans.
Richard avait 42.
C'est ça. Maintenant, on est rendu à 134 à 2.
Quand on a commencé à signer nos papiers, les contrats, on mettait toujours un petit mot, des nouvelles, puis tout ça. Puis quand on a commencé à voir qu'on disait, on dit 5 ans, on va diminuer à un moment donné, là, tu sais, on s'en va vers la retraite. Fait que maintenant, on a commencé à faire ça. Le premier, c'était vos maraîchers vieillissants, vos maraîchers grisonnants. Après ça, ça a été, on fait tant d'années à deux. On mettait le 100. Fait que là, le monde réalisait que... On c'était pas 70 ni 80, on faisait 115 ans à deux, tu sais. Donc, on avait un certain âge, là. Une façon de dire qu'on n'était pas en pré-retraite, mais...
Ça s'en venait.
Ça s'en vient. Quand tu prends ta retraite ou ta pré-retraite, t'as peur aussi un peu de ça, là. Moi, je m'ennuie du monde qui venait les jeudis, là. Tu sais, c'est comme quelque chose, là. C'est... Quand t'as dit le fermier de famille, les partenaires, c'est... T'as l'impression que t'es connais plus que tes cousins, là, tu sais, hein? Il y a quelque chose dans ça.
Oui, il y en a qu'on a commencé à servir, il était bébé naissant. Ça fait une tranche de vie, une génération, en fait.
C'est une aventure humaine, être fermier de famille.
Oui, ça a été vraiment fermier de famille avec ce monde-là. Là, il y a encore un partenaire qui vient là, chercher quelques légumes de réserve, parce que là, on fait plus de panier, mais il y a quelques-uns qui ont quand même... leur réservation de leurs 50 kilos de tomates, ainsi de suite. Alors, ils viennent, puis on entend parler des enfants, où est-ce qu'ils sont rendus, hop, là, c'est haut comme ça, se rendu à l'université, ça a arrêté l'université, oh, mon Dieu Seigneur, ça passe vite.
Dans le fond, ça fait plus de 20 ans.
Oui, on peut dire que là, c'est la deuxième saison sans panier qu'on fait. Autrement dit, on a arrêté en 2018.
OK. De 99 à 2018. C'est donc ça. 20, vous avez fait 20 saisons de panier comme fermier et fermière de famille.
C'est ça.
Bravo.
On avait un taux de rotation d'abonnement de panier de 99%. Là. S'il y a quelqu'un qui quittait, c'est parce qu'il déménageait ou les enfants étaient partis, les gens avaient le goût de voyager un peu plus, n'avaient plus le goût de venir chercher un panier, mais c'était exceptionnel. Ou les années que nous, on a réduit, tu sais, j'avais pas à, chaque année à chercher.
C'est vous qui avez sélectionné au final là.
Ben, en fait, quand on a commencé à 13, c'était le bouche-à-oreille, puis tranquillement, quand on a lancé l'idée, là, on faisait des paniers vraiment. Il était sur appel, mais c'est pas parce que tu m'appelles, Justin, que tu vas avoir un panier. On va prendre rendez-vous, je veux savoir, est-ce que tu cuisines? Est-ce que de la roquette te dit quelque chose? Est-ce que ton conjoint mange des légumes? Est-ce que les enfants, ils cuisinent? Est-ce qu'ils t'aident? As-tu quelqu'un? Est-ce que tu fais des tomates en pot? On voulait des gens qui transformaient, qui cuisinaient, qui étaient curieux. Pas nécessairement des gens aisés, mais des gens qui allaient faire « Ah, wow, j'ai hâte d'avoir la boîte. » Puis tranquillement, on a choisi les gens qui pouvaient pas faire un jardin ou qui ça leur tentait pas, mais qui étaient avides de choses curieuses, de choses savoureuses, pas juste les trucs de base.
Vous leur faisiez passer une entrevue.
Oui. Puis avec le contrat du panier, les gens avaient quelques items là, qu'ils pouvaient choisir. Ça se peut que parce que t'allaites cette année-là, tu n'aimes pas trop les choux, puis l'année prochaine, tu vas en prendre. Bon, ça se peut. Ça se peut que tu n'aimes pas la coriandre. Après, on a découvert que c'était une affaire de gêne, là, que ça se pouvait que les gens n'aiment pas la coriandre à cause de ça. Mais que tu fasses du persil dans ta cour, c'est pas grave, si on t'en met pas, si tu prends tout le reste. Les gens avaient leur panier de légumes hebdomadaires, puis ils pouvaient avoir des fois 1, 2, 3, 4 bacs de légumes supplémentaires qui étaient des légumes de transformation. Ce volume-là de légumes de vente en surplus, qu'on appelait des légumes de réserve, ça équivalait beaucoup de monétairement, mais en même temps, c'était pas des contacts qu'il fallait refaire à chaque fois.
Ça permettait, en fin de compte, la mise en marché était capable d'absorber toutes les fluctuations dans les arrivages, donc on avait zéro invendu. Même on a commencé à planifier pour ces réserves-là, puis c'est devenu un peu comme notre objectif sous-jacent, si on peut dire. Monique parlait de l'entrevue. Ça n'a pas été pour le recrutement des familles quand on a été en phase croissance. Quand on était en phase croissance, c'était un peu comme chaque partenaire pouvait nous référer une, deux personnes. Après ça, on avait une séance d'information par petits groupes dans la cuisine 6, 7, 8. Mais quand on a réduit notre nombre de partenaires, forcément, dans ceux qu'on voulait conserver, il y a toujours eu un déménagement à l'extérieur de la région, une mortalité, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Donc, on avait à peu près, je peux dire, peut-être un 5% de la clientèle à renouveler, c'est-à-dire 3-4 partenaires à trouver pour compléter notre liste. Et à ce moment-là, c'était l'entrevue à Monique. Une de nos partenaires ne racontait ça en riant. Elle est venue nous voir après qu'on a fini de servir les paniers. Elle a dit, je m'en souviens, je déménageais dans la région. Je voulais absolument avoir un panier. J'étais à mon bureau. J'étais occupé. J'avais beaucoup de travail. Puis là, j'ai pogné Monique pour une entrevue de 2 heures. Ça, c'était pas mal intéressant. Ça a pris une grosse importance, ces réserves-là. C'était commode pour économiser tes surplus. Mais finalement, mettons que ça représentait à peu près 40% de valeur ajoutée à la valeur des contrats. Autrement dit, 60 partenaires avec bien des réserves, ça équivalait au volume de 100 partenaires. Sauf qu'on avait seulement que 60 partenaires à gérer. Ça, c'était pas mal le fun. Après notre réduction d'activité de 85 partenaires à 60, à la fin, quand on était rendu à une vingtaine de partenaires, mais c'était 100%.
100%?
Oui.
Qui prenaient des surplus.
On peut dire qu'il y a des partenaires qui pouvaient prendre 2 fois la valeur de leur abonnement en réserve. C'est-à-dire un abonnement à 400, mais je rajoutais un 800$ de légumes de réserve. Et certains d'autres, c'était plus modestes, qui allaient prendre 50, 60, 70$ de réserve. Mais c'est pratiquement tout le monde. Un panier pas de réserve, il y en avait peut-être 1-2 partenaires sur 20, c'est tout. Donc, c'était un élément qui était très important pour nous autres. Et puis, pour gérer tout ça, il faut comprendre que les paniers n'étaient pas tous pareils. Et puis, il y avait des réserves. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'à l'intérieur de chaque panier, à chaque semaine, il y avait une facture personnalisée qui me permettait, en fin de compte, rendu au début d'octobre, 2-3 semaines avant fin, d'envoyer un état de compte pour dire, avec les réserves, tout ce que vous avez reçu, bien, vous avez reçu pour telle valeur, il reste encore 2 semaines pour que les personnes sachent qu'à la fin de la saison, ils peuvent avoir une facture à payer. En fin de compte, la facture à payer, ça se trouvait être, la paye Notre paye, c'était constitué par les réserves. On peut dire que les abonnements, c'était les dépenses courantes et puis les restaurants, ça pouvait être les investissements. On pouvait budgéter comme ça, mais c'est sûr que ça arrive tout dans le même pot.
Ce qu'on voyait aussi, c'est on s'est dit on aimerait les donner la chance aux familles de donner un coup de main. Quand les partenaires remplissaient leur contrat, ils pouvaient mentionner qu'ils seraient intéressés avec les enfants ou sans enfants. Et puis, il y avait un choix, la plantation des pommes de terre, la récolte de telle affaire. Mais on choisissait toujours des tâches qui seraient adaptées aux âges. Donc, pour les tout-petits, ça a été les pommes de terre. Ça a marché beaucoup, beaucoup. D'une année à l'autre, le petit enfant pouvait, l'année suivante, faire une tâche... Il avait pris du pic, tu sais. Puis là, c'était la fourche. Et puis après ça, c'était, il voulait remplir les sillons. Puis après ça, il voulait planter. Puis après ça, il voulait venir récolter plusieurs années après. Les carottes, on a fait ça aussi. On a fait la récolte des courges. Il y a des adultes qui sont venus pour planter des tomates. Vraiment de l'aide au jardin.
Il y a des années, on peut parler qu'on avait effectivement un 30-40 jours de travail, ce qui était fourni.
Mais ça... Ça a gardé comme le lien. Donc, il y a des parents qui recevaient le panier de légumes puis qui disaient ça, c'est les légumes de Monique et Richard. Mais même pendant l'hiver, pour que les enfants réussissent à manger des légumes, ça, maman, c'est-tu des légumes de Monique et Richard? Oui, oui, oui. Quand en fait, ça venait pas d'ici parce qu'on faisait pas de panier d'hiver. Mais tellement le lien était fort, tu sais, c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que t'as fait l'année passée puis cette année? Parce que moi, je suis à la retraite.
Pas bon. Monique est sortie du champ. C'est Monique qui était en charge de l'assemblage des paniers, le contrôle post-récolte, et ainsi de suite. On a conservé uniquement comme clientèle deux restaurants. C'est pas beaucoup, mais nos restaurants les plus fidèles. Colombe, ça fait 16 ans. Julien, on peut parler de 12 ans à peu près. C'est quand même un bon goût.
Quand Richard parle de Colombe, c'est évident, c'était Colombe Saint-Pierre du restaurant chez Saint-Pierre, au Bic. Et puis Julien, c'est Julien Bertolucci de la réserve à Rimouski. C'est deux tables exceptionnelles avec des brigades exceptionnelles aussi. Dans les premières années, Richard prenait les commandes ici dans la cuisine. Une petite anecdote. Donc les employés sont ici, on mange, on ne sait pas trop faire le bruit. Puis Richard, on avait l'impression d'être à la bourse, là, tu sais. OK, les ravioles, 180, parfait. 350, mini betteraves, OK, parfait. Puis ça va vite, là. Puis là, après, Richard a développé le copier-coller, là. Je vais prendre la même chose que la semaine passée, mais deux fois plus de ravioles, plus de concombres. Mais les flacons comestibles, il n'y a plus, j'attends moins de monde, on va en mettre un peu moins. C'était assez rapide. En 5 minutes, là, la commande était faite. C'est drôle.
Quelles étaient vos spécialités que les chefs appréciaient particulièrement? Qu'est-ce qui vous identifiait?
Malheureusement, ça c'est la grosse critique qu'on a faite au restaurant, c'est qu'ils appellent toujours le plat sous le nom de la viande et puis jamais du légume. Dans l'assiette, on est toujours le second rôle omniprésent, mais second rôle toujours et rarement le nom. Je pourrais te nommer quelques ingrédients, par exemple, qui ont été bien importants pour les chefs. Sans mentionner si nécessairement le plat. On peut parler, par exemple, d'un des chefs avec qui on a fait affaire, qu'on a vraiment apprécié, Jean-François Desfers. C'est lui qui nous a fait connaître le haricot plat, haricot romano. C'est lui qui nous a fait connaître les cipollini, un petit oignon plat, qui est vraiment un parfum différent de l'oignon. Et les ravioles, les radis Tokyo, que maintenant tous les maraîchers ont adopté. C'est le navet Hakurai. C'est lui qui nous a fait connaître ça. C'est pas vraiment connu à ce moment-là. On peut parler d'autres légumes qui sont devenus un peu comme des incontournables. Par exemple, avec Colombe, dans les produits qui sont vraiment appréciés, on a le paprika qu'on produit en tunnel, à développer avec un lactofermenteur, une sorte de paprika lactofermenté absolument débile. T'en prends un microgramme, ça goûte à plein la bouche. C'est vraiment intéressant. Elle fabrique ça aussi avec notre piment dit d'Espelette, qui vient de semences qui sont produites par la Société des plantes. On a été capable de dénicher, même à un moment donné, il a fallu chercher les graines jusque dans les catalogues de Nouvelle-Zélande, la courge Jim. Ça ressemble à la courge 8-ball, sauf que c'est une courge d'hiver. Elle prouve qu'il peut devenir tellement dur qu'une fois que tu as mangé la chair, tu peux la mettre au lave-vaisselle puis avoir gardé sa forme. C'est une courge qui se mange à la peau noire. Parfum, c'est entre quelque chose de sucré et l'aubergine. Alors, Colombe a tombé là-dessus. En fait, plusieurs plats, mais qu'elles servaient toujours dans la demi-courge. Mais d'une année, par exemple, la courge germe, son plat était un plat salé. Il y avait une ange de pétoncle dans le milieu. Maintenant, c'est un dessert. D'une année à l'autre, ça change avec le produit, l'inspiration du moment. Elle était bien drôle parce que ça, c'est une spécialité sud-africaine. On sort du terroir un peu. Et puis, à un moment donné, Colombe est allée au Zimbabwe il y a un an, juste avant la pandémie, puis a rencontré des chefs. Puis les chefs lui ont dit, je vais te faire goûter quelque chose que tu n'as jamais goûté. La courge germe. Elle dit, je sais, mon producteur m'en fait. Alors, ça nous fait un petit velours de ça. On produit un shiso vert qui est Shiso, c'est proche du basilic, mais ça a un parfum, un mélange cumin et cannelle, piria crispant. Pas la variété bretonne qui est uniquement décorative et insipide, mais le green shiso ordinaire. D'ailleurs, on a reproduit des semences de ça. Puis elle a fini par l'adopter, beaucoup pour faire des marinades. Un plat qu'on fait, c'est la courge, le melon Gallia. Cultivar diplomate, avant ça, c'était passeport. Elle fait des sorbets avec l'estragon mexicain, qui est la tagette misante. Un autre de mes chefs adore beaucoup la German Butterball, la pomme de terre, German Butterball, qui fait la meilleure purée au monde. Tandis que Colombe, elle, est tombée dans la pomme de terre Provento. Pour faire la poutine au crabe, c'est la meilleure. Oh mon Dieu, la ficoïde glaciale. Très apprécié, c'est particulier, par exemple, pour avoir le bon format. Comment t'es incontournable, j'essaie de penser. Ah mon Dieu, la citrouille rouge vive des tempes. C'est vraiment la base des potages d'un de mes chefs, de Julien. Puis, à part ça, j'essaie de penser dans nos produits actuels. Ah mon Dieu. Là, ça, notre travail de sélection de semences, en même temps, ça nous a poussé un peu sur des petites recherches sur la régie de culture de l'échalote. L'échalote française que tu vois à l'épicerie, c'est toujours des petits spécimens, 50 grammes. Tandis que là, on s'est aperçu que en plantant avec une moindre densité, avec des plants partis comme des oignons en caissette et plantés un par un, on est capable d'avoir des formats assez gigantesques et surtout une précocité. Quoi précocité? 2-3 semaines, c'est jour puis la nuit dans le Bas-Saint-Laurent parce que les restaurants sont saisonniers. 2-3 semaines, c'est comme un mois et demi reporté sur une année en importance. Très important d'avoir le produit plus tôt. Alors là, j'ai été capable de faire une régie culture pour que cette échalote-là soit mûre, prête à être consommée et ait aussi un gros format. Parce que ça coûte cher peler l'échalote. Alors, ce qu'elle reçoit, c'est le format Colombe, c'est du 150 grammes en montant. Tandis que les échalotes à l'épicerie, c'est du 40 grammes d'habitude, 25 à 40. C'est long à peler cette petite échalote. La mienne a autant de goût, sinon elle est meilleure. Alors ça, c'est assez intéressant. Puis elle a développé aussi, fait une lactofermentation avec ça. Et maintenant, en serre de notre échalote, c'est l'échalote noire, comme on fait l'ail noir. Ça, c'est pas mal intéressant comme produit. Là, ça, c'est le fun. Il y a une autre dimension qui s'est faite au travers de la ferme. Ça a été beaucoup de recherche et développement. On a teinté très scrupuleuse les registres, savoir qu'est-ce qu'on faisait, parce que notre logique de développement, c'était tout le temps de... Pour croître, il s'agit surtout d'éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est là qu'est notre profit. Si tu trouves une erreur que tu peux éviter, c'est là que tu vas économiser. Pas obligé d'investir un autre 10 000 piastres. Tu vas obtenir travailler moins, tu vas obtenir plus si tu corriges les erreurs. Mais cet exercice-là, c'était par la tenue de registre. On a eu la chance d'avoir un contact très suivi avec Christiane Cossette du MAPAC, qui était la répondante en agriculture biologique et responsable du secteur horticole pour la région. On était d'ailleurs un site de dépistage pour les insectes et maladies, donc ça nous gratifiait d'une visite par semaine avec des commentaires sur les légumes ciblés par le suivi. Et puis ça, c'est un peu comme ça facilitait la tâche pour les échanges beaucoup. Hein. Ça serait le fun, par exemple, ça, on était en 2002. J'ai vu dans le catalogue de Johnny's qu'il y en a qui utilisent des bâches flottantes contre les insectes. C'est pas connu. Je pense qu'ils en vendaient même pas encore chez Dubois, là. OK? On est en 2002. Internet, c'est encore de la basse vitesse. C'était lent. Les connaissances sont encore fragmentaires. Alors là, on a pu faire, par exemple, un projet d'essai. Voir si la bâche flottante pouvait empêcher les altises de pondre sur les crucifères feuilles. J'ai l'impression que s'il y a des auditeurs, ils disent non. C'est-tu au siècle dernier que vous avez commencé? Il dit effectivement, au millénaire dernier. Dans le sens que les choses et les connaissances ont évolué très, très vite en agriculture, mais il y a beaucoup de projets d'expérimentation qu'on a pu faire. En 2006, on commençait à avoir un peu plus de vitesse l'ordinateur. On a vu qu'aux États-Unis, ils utilisaient des hoop houses. C'est ce qu'on appelle maintenant des chenilles ou des tunnels. Alors, on a construit des tunnels. 2006, c'est pas il y a 40 ans, c'est il y a 15 ans. Alors là, on a commencé des tunnels pour pouvoir faire des verdurettes à l'intérieur. Par la suite, ça nous a mené de fil en aiguille à pouvoir remonter un projet aussi pour voir si ça valait la peine. Là, vous allez rire encore. Est-ce qu'il y a un avantage économique à faire pousser la tomate en tunnel? On ne savait pas. Ça, c'est en 2009. Il y a quelque chose de bien, bien drôle là-dedans. Tout bouge vite, hein, en agriculture. Maintenant, ça bouge vite à la vitesse de l'éclair. Les communications, maintenant, on est rendu à haute vitesse. Le temps qu'on finisse d'écrire notre rapport sur la productivité de tomates en tunnel, qui était, au moment où on a fait le projet, c'est un peu comme de l'avant-garde. Le temps qu'on finit d'écrire le rapport, 2 ans après, tout le monde s'est construit des tunnels partout. Parce que les gens, vous, savaient que c'était évident. Le développement des cultures abritées passives, si on peut dire, c'est fait à une vitesse fulgurante. On était dans la phase où il fallait vraiment connaître le bio puis démystifier le bio par rapport au conventionnel. Le contexte par rapport au bio était vraiment différent. Au sein du MAPAC, tu n'avais pas le droit de dire que c'était meilleur pour la santé ou pour l'environnement. Le contexte politique dans ce temps-là était plus vers le développement des méga-porcheries. Ça, c'est au début du millénaire. On avait le droit de dire que c'était différent. Il y a 3-4 ans, j'en revenais pas d'entendre le ministre dire « acheter du bio, c'est bon pour la santé et l'environnement ». Le discours a complètement changé. La place du bio sur l'échiquier a complètement changé.
Quel vieux!
Adieu.
On a quel âge à deux?
134.
Faites un beau couple uni à 134 ans. Ben, je vous remercie infiniment pour ce temps-là qu'on a pu passer ensemble, puis tout ce que vous avez transmis, puis qui va rester gravé en espérant que le fil ne sera pas rompu, à savoir que vous avez bénéficié de l'expérience de certaines personnes, vous l'avez transmis à d'autres, puis encore aujourd'hui, vous faites cette preuve-là de participer, contribuer au fil continu de la transmission de génération en génération des connaissances, du savoir-faire, du savoir-être aussi. Merci pour cette contribution-là. C'était Monique Michaud et Richard Favreau de la ferme Val-au-Vent à Saint-Valérien. Merci.
Merci.
Merci.